Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, la mission, c'est de voyager dans le temps et l'espace pour redécouvrir tout un territoire.
Absolument, un territoire à travers des archives visuelles qui sont vraiment exceptionnelles.
C'est ça. L'attention va se porter sur une rivière un peu méconnue, mais dont le rôle a été absolument fondamental pour toute la région. On parle du Céor, situé dans le département de l'Aveyron.
Et l'outil qu'on va utiliser pour cette plongée au cœur des sources n'est autre que la carte postale ancienne. C'est pas banal comme approche.
Non, c'est clair. Et le document qui sert de boussole à cette analyse, c'est le passionnant bulletin numéro 22 du Cartoclub Aveyronnais, un bulletin publié en 2004.
Oui, une vraie mine d'or, ce document.
Totalement. D'ailleurs, il est indispensable de citer d'emblée les artisans de cette mémoire. L'article foisonnant que nous allons décortiquer, il a été écrit par Alain Bouza.
Un travail de recherche impressionnant de sa part.
Et il faut aussi souligner le travail titanesque de Guy Mazard. Il officiait en tant que rédacteur en chef et aussi concepteur de la mise en page de ce fameux bulletin.
C'est vrai que c'est grâce à cette rigueur éditoriale que ces petits fragments de vie rurale nous parviennent intacts aujourd'hui.
Exactement, et je crois que ce cadre, c'est un peu la clé de toute l'analyse qu'on va mener, non?
Oui, parce qu'il ne s'agit pas juste de feuilleter un vieil album photo avec un vague sentiment de nostalgie. La carte postale au début du XXe siècle, c'est l'équivalent d'un véritable reportage documentaire.
Un instantané sociologique et économique, en fait.
Voilà. Et géographique aussi. Suivre le cours du Céor à travers ces images, c'est observer, vraiment à la loupe, comment un simple cours d'eau a dicté l'emplacement des villages, la nature des métiers.
Le rythme du quotidien, quoi.
C'est ça, la vie de toute une vallée.
Bon, pour bien saisir l'impact de ce cours d'eau, je pense qu'il faut d'abord poser les dimensions physiques de la bête. La géographie du Céor est assez vertigineuse.
Ah oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
La source, elle jaillit à 910 mètres d'altitude. C'est sous un petit hameau nommé Bonneviale. Et à partir de là, l'eau entame une course de 56 km.
Pour finir par se jeter dans la rivière du Viard à seulement 306 mètres d'altitude.
Un dénivelé de 600 mètres sur une si courte distance. Cela implique une force motrice naturelle colossale.
Ce qui est fascinant ici, c'est que cette force brute était millimétrée, calculée et exploitée jusqu'à la dernière goutte.
On n'est pas du tout sur l'image du petit torrent sauvage au milieu d'une nature vierge.
Pas du tout. À l'aube des années 1900, la réalité dévoilée par les archives, c'est une véritable industrialisation rurale. Le cours du Céor était entravé par pas moins de 56 chaussées.
Des chaussées, on s'entend, ce sont bien de petits barrages maçonnés en travers de la rivière.
Tout à fait. Des barrages pour créer des retenues d'eau et dévier le courant vers des canaux. Et ces 56 barrages artisanaux, ils n'étaient pas là pour faire joli.
Ils servaient à quoi, concrètement?
Ils alimentaient directement 21 usines hydrauliques réparties sur les rives.
21 usines sur 56 km, ça fait une densité énorme.
Pente de filature pour la laine.
Donc, statistiquement, presque tous les kilomètres, la main humaine intervenait pour transformer l'énergie de l'eau en activité économique.
Le Céor, c'était le moteur industriel qui faisait tourner la région. C'était bien plus qu'un simple élément du paysage.
Ce qui est rassurant, d'après l'article d'Alain Bouza, c'est que cette industrialisation florissante n'empêchait pas une vie naturelle très riche.
Oui, il fait un inventaire d'une faune aquatique assez foisonnante.
Des truites, des vairons dans les eaux vives de la partie haute, des goujons plus bas. Mais il y a un détail écologique qui retient l'attention dans le texte.
La disparition de l'écrevisse.
Exactement. Une disparition brutale et assez mystérieuse au moment où l'article est rédigé.
Ce qui prouve que ces environnements étaient déjà vulnérables aux mutations, que ce soit des maladies ou des changements de qualité de l'eau.
Mais continuons de suivre ce courant qui nous mène tout droit vers le village d'Arvieux.
Ah, Arvieux, c'est un cas d'étude très particulier. C'est un chef-lieu perché en altitude, avec une réputation climatique qui lui a même valu un surnom.
Ervif.
Ervif, voilà.
Un doux euphémisme pour dire que les hivers y étaient complètement glaciaux.
C'est certain que la rudesse du climat a dicté le mode de vie là-bas. Mais l'article révèle une activité économique hyper locale autour d'un plan d'eau spécifique, l'Orte de l'Étang.
Une petite étendue de 2 hectares, traversée par le Céor.
Et son exploitation témoigne d'une gestion des ressources sur le temps très long. L'eau alimentait un moulin et une scierie, mais c'est l'organisation de la pêche qui capte l'attention.
Elle n'était pas continue de mémoire.
Vers 1900, une grande pêche y était organisée seulement tous les 3 ans.
C'est le temps nécessaire pour laisser la biomasse se reconstituer, j'imagine.
Absolument. Et les volumes étaient impressionnants. Environ 200 kilos de poissons sortis des filets en une seule fois.
Et le plus beau, c'est que cette prise massive restait dans le circuit ultra court. Les habitants achetaient ce poisson frais sur place, au bord de l'eau, pour 2,5 francs le kilo.
Un vrai micro-événement économique qui venait ponctuer la vie du village. D'ailleurs, près de cet étang, le document mentionne un manège à cidre.
Ah oui, il faut sans doute préciser ce terme pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas de diplôme en ingénierie agricole du 19e siècle.
Un manège à cidre, c'est une installation de broyage où la force motrice n'est pas l'eau, mais la traction animale.
Donc, un cheval ou un bœuf qui tourne en rond?
C'est ça. Attelé à un axe vertical pour faire rouler une lourde meule de pierre sur les pommes. Ça montre une belle hybridation des sources d'énergie. Quand l'eau venait à manquer, l'animal prenait le relais.
Une polyvalence qu'on retrouve aussi dans l'architecture même du village d'Arvieux, immortalisée sur les cartes postales. L'analyse visuelle est frappante.
Notamment avec le fameux château Saint-Louis.
Oui, un édifice imposant qui a connu plusieurs vies, école religieuse, avant de se métamorphoser en mairie.
Il y a aussi cette carte postale incroyable montrant l'ancien couvent. L'anecdote est vraiment savoureuse.
Ah oui, la tour de l'ancien château féodal, intégrée au domaine des religieuses, était louée à un marchand de vin, un certain monsieur Ginesti.
Et le résultat sur la photographie est comique. Sur une image censée immortaliser la quiétude religieuse d'un couvent, on aperçoit très clairement des barriques de vin massives entreposées dans la cour des sœurs.
C'est toute la magie de la photographie documentaire de l'époque. Sans retouche, le sacré et le commerce vinicole cohabitent dans le même champ.
Ça raconte tout le pragmatisme des habitants face au manque d'espace.
Mais parmi toutes ces images d'Arvieux, il y en a une qui mérite qu'on s'y arrête longuement. C'est la carte postale éditée par l'hôtel La Paume.
Une carte publicitaire, en somme.
Oui, mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. En regardant les crédits du photographe, on lit le nom de Paul Rochas, domicilié à Blois.
Blois, dans le Loir-et-Cher, c'est loin de l'Aveyron?
Exactement. Il faut se rendre compte de la logistique. Un photographe professionnel a emballé ses lourdes chambres photographiques, ses plaques de verre, et a traversé la France juste pour photographier la devanture d'un hôtel dans un petit village. Qu'est-ce qui justifie un tel périple?
En fait, cette présence révèle la frénésie du marché de la carte postale à la Belle Époque. L'image de la France rurale, c'était une industrie extrêmement lucrative.
Les éditeurs quadrillaient le territoire.
Littéralement. Chaque commerce d'importance voulait sa série de clichés, et l'hôtel La Paume n'était pas qu'une auberge. Le document précise qu'il faisait office de recette buraliste.
Donc on y percevait des taxes, on vendait le tabac, on distribuait le courrier.
Le centre névralgique du village, par excellence. Pour un photographe comme Paul Rochas, un tel lieu garantissait des ventes importantes auprès des voyageurs et des habitants. Le voyage depuis Blois était un pur investissement commercial très rentable.
C'est fou de voir ces dynamiques économiques derrière un simple bout de carton. Mais l'exploration doit suivre le courant du Séor, qui quitte Arvieux pour serpenter vers la commune de Salmiège.
Et là, c'est la topographie qui dicte sa loi. La rivière effectue une boucle très prononcée pour contourner un éperon rocheux massif.
Éperon sur lequel trône l'église Saint-Firmin. Mais pour traverser cette boucle sans être bloqué par les crues, il a fallu bâtir solide.
Ce qui nous amène à cette carte postale remarquable montrant un pont datant du XIIe siècle. L'architecture de ce pont est une réponse directe au caractère torrentiel du Séor.
L'auteur utilise un terme occitan pour le décrire, non? Potou botouille.
Oui, manto do balo. Ça désigne un pont en dos d'âne. Il monte de façon abrupte avant de redescendre tout aussi sèchement.
J'imagine que ce n'est pas juste un choix esthétique.
Pas du tout. La clé de voûte est surélevée au maximum pour permettre à l'eau de passer en force lors des violentes crues hivernales, sans que la pression n'emporte la maçonnerie. Et ça a fonctionné pendant 8 siècles.
Impressionnant. Et au-delà de l'ingénierie, les scènes capturées à Salmiège montrent des rues qui débordent de vie.
L'analyse d'Alain Bouzane détaille par exemple ce lourd attelage de bœufs devant un moulin, pliant sous le poids des sacs de farine.
Pendant que le propriétaire s'accorde une pause au café français pour y boire un Beyrard, un petit verre de vin.
Et sur une autre image, c'est le charron du village, M. Fabre, immortalisé en plein travail.
Il travaille le bois et le fer de ses roues en plein milieu de la rue pour préparer la saison des foins.
Ça nous rappelle que la rue de l'époque n'a rien à voir avec notre conception moderne. Ce n'était pas qu'un couloir pour véhicules.
C'était un atelier à ciel ouvert.
Le prolongement naturel de l'artisanat, un espace de socialisation. Le photographe capture l'artisan dans son milieu naturel.
Cette maîtrise de l'environnement humain contraste fortement avec la violence des éléments naturels qu'on retrouve un peu plus loin à Aurillac-Lagaste.
Ah, Aurillac-Lagaste, le point culminant du canton.
la fameuse pyramide du Lagast à 928 mètres d'altitude. On y est en première ligne face aux intempéries.
Et l'histoire du clocher de l'église d'Aurillac, bien documentée dans le bulletin, illustre cette vulnérabilité.
La foudre a toujours été la terreur des villages de montagne. L'événement de 1937 a dû marquer les esprits.
Un orage d'une violence inouïe. Le clocher historique est foudroyé en plein vol et l'incendie le détruit totalement.
Il faut s'imaginer le choc pour une communauté rurale des années 30. Le clocher, c'est le repère visuel et sonore qui rythme les journées de travail dans les champs.
Perdre le clocher, c'est perdre la voix du village. Mais la réaction de la commune est un pragmatisme impressionnant.
Ils n'ont pas juste reconstruit à l'identique.
Non, la reconstruction devient un projet de modernisation. Le nouveau clocher est redessiné pour intégrer une horloge à quatre faces, visible de partout.
Donc un drame météorologique converti en amélioration technologique. L'adaptation face à l'adversité semble être le maître mot de cette vallée.
Une ténacité qui prend une dimension encore plus forte lorsqu'on aborde l'étape suivante, Cassagne-Bégognès.
Un vieux bourg qui présente des statistiques démographiques qui forcent le respect, surtout face au contexte dévastateur de l'exode rural français.
C'est clair. Cassagne a fait figure de forteresse. Les archives indiquent 1440 habitants en 1900. Et un siècle plus tard, en 1999, on compte encore 982 âmes.
Maintenir près de 1000 habitants, c'est un exploit. Le bulletin explique cela par des initiatives volontaristes, la création précoce de lotissements, la défense des services publics.
Et surtout la vitalité d'un tissu de petites entreprises qui ont refusé de partir. L'article prend pour exemple la filature Fressigne.
Dont les machines étaient animées par les eaux du Séor.
La rivière joue vraiment un rôle de fixateur d'emplois.
Cependant, même le bourg le plus résilient ne peut pas arrêter la grande histoire. Et ça nous amène à l'une des descriptions les plus marquantes du bulletin. Une carte photo exceptionnelle, prise devant l'hôtel Cambolive, au cœur de Cassagne.
On est loin de l'insouciance rurale, là.
On est plongé dans la Première Guerre mondiale en plein effort de guerre.
Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, l'image cesse d'être une simple scène de rue pour devenir un témoignage poignant de la mobilisation totale du pays. On observe une vaste opération de réquisition militaire.
L'armée française avait besoin de fourrage pour les chevaux sur le front. L'espace public est métamorphosé en usine improvisée.
Une énorme locomotive à vapeur crachant sa fumée a été acheminée en plein village.
Elle actionnait une presse mécanique pour compacter le foin en balles denses maintenues par du gros fil de fer. Autour de cette machine, des militaires en uniforme.
L'un d'eux a même posé son registre sur une botte de foin, pointant minutieusement les quantités arrachées aux paysans.
Le tout est chargé sur des charrettes direction la gare de la Primaube pour partir par trains entiers vers les zones de combat.
Cette scène, c'est l'intrusion brutale de la guerre industrielle dans le monde paysan. L'État vient pomper les ressources de la vallée pour alimenter le front à des centaines de kilomètres au nord.
Après l'intensité de ce témoignage, le cours du Séor nous entraîne vers des mystères un peu plus apaisés, touchant aux racines de l'identité des lieux.
Le premier arrêt de cette fin de parcours se fait à Centresse.
Un village géographiquement singulier, assis sur la ligne de partage des eaux entre la vallée du Viaor et celle de notre Séor.
Mais c'est l'étymologie du nom qui suscite la curiosité, avec une légende très sombre.
La mémoire locale soutient que le village tire son nom de Centrais. En occitan ou vieux français, cela signifie 103.
Et ce nombre ferait référence aux 103 uniques rescapés d'un massacre sanglant perpétré par les troupes anglaises pendant la guerre de Cent Ans.
Ces survivants auraient rebâti la communauté. C'est le genre de récit identitaire qui soude une population, que les archives historiques le corroborent ou non.
Tout à fait. Mais le bulletin soulève une autre querelle d'identité, géographique cette fois, un peu plus loin, entre Castelperse et Saint-Just-sur-Viaur.
Bon, décortiquons un peu tout ça. À hauteur de Castelperse, les eaux du Séor rencontrent celles du Gifou. La question épineuse, laquelle se jette dans l'autre.
Un véritable dialogue de sourds entre la science cartographique et l'observation populaire.
D'un côté, les savants, les ingénieurs de l'Institut géographique national, l'abbé Ferral.
Eux se basent sur des données hydrologiques strictes. Débit, surface du bassin versant. Leurs calculs sont formels. Le Gifou est l'affluent, le Séor continue sa course.
Mais sur le terrain, pour les riverains, c'est une toute autre histoire.
Pour eux, visuellement, le Gifou paraît plus imposant.
La vie locale est unanime et s'oppose aux cartes officielles. Pour les habitants, c'est le Séor qui meurt dans le Gifou.
Cette querelle illustre parfaitement le fossé entre une vérité administrative, calculée dans des bureaux, et une vérité sensible, ancrée dans le quotidien de ceux qui vivent là. Et souvent, la tradition visuelle l'emporte dans l'imaginaire collectif.
Le regard des savants contre le regard des paysans. Cette confluence marque la fin du parcours de notre rivière vers le bassin du Vior et referme les pages de ce bulletin du Carte-Club Aveyronnais. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire au fond ?
La conclusion majeure, c'est un profond changement de perspective sur ce qu'est une archive. Les cartes postales anciennes ne sont pas des vignettes nostalgiques d'un monde idéal.
Ce sont des données brutes ?
Des données qui cartographient la densité d'un territoire. En suivant le Céor à travers ces photos, on comprend qu'une simple rivière de 56 km, absente des grands livres d'histoire, était le centre du monde pour ceux qui l'exploitaient.
Pour les meuniers, les charrons de Salmiech, les hôteliers d'Arvieux, c'était la condition de leur survie.
Elle fournissait l'énergie motrice, dictait à l'architecture, offrait un réseau de communication.
C'est une prise de conscience vertigineuse pour ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on traverse ces cours d'eau à grande vitesse sur des ponts en béton, sans même lire le nom sur le panneau.
Pourtant, chaque ruisseau, chaque moulin en ruine dissimule une ingénierie de survie et une histoire humaine très dense.
L'histoire ne s'écrit pas qu'à Versailles. Elle s'écoulait aussi dans les retenues d'eau des campagnes aveyronnaises.
Cette redécouverte est essentielle. Et cela soulève une question importante pour clôturer cette réflexion.
Laquelle?
Il y a un siècle, la société figeait chaque modification de son espace. Un nouveau commerce, un clocher foudroyé, une réquisition militaire.
Tout justifiait le déplacement d'un photographe.
Voilà, et ces événements devenaient des objets physiques, des cartes postales imprimées, légendées, timbrées et conservées précieusement dans des boîtes à chaussures.
Une mémoire palpable, matérielle, conçue pour être transmise.
Précisément, aujourd'hui, on produit des milliards de photographies numériques chaque jour. Mais ces images sont volatiles, noyées dans le flux des réseaux sociaux, sans contexte.
Sans légende géographique précise.
On peut donc légitimement s'interroger. Lorsque les chercheurs de l'année 2126 voudront comprendre le tissu économique de nos banlieues ou nos pratiques agricoles, sur quoi s'appuieront-ils?
C'est vrai, notre époque surdocumentée risque de devenir une époque sans archives physiques durables.
Quelle sera la carte postale du XXIe siècle qui survivra pour raconter notre intimité?
Un paradoxe fascinant. Photographier infiniment plus pour, peut-être, laisser infiniment moins de traces tangibles à l'histoire locale. C'est sur cette réflexion puissante que s'achève l'exploration de cette très industrieuse vallée du Céor. Merci d'avoir partagé ce voyage au fil de l'eau et à très bientôt pour poursuivre le décryptage des traces que le passé a laissées sous nos yeux.